Pour tout savoir sur votre ville et ses petits secrets, Radio Corbeau.
Allez, laissez tomber maintenant.
Radio
Corbeau. Ce serait plutôt de vous occuper de cette radio, elle est illégale.
Y'a mon œil qui a porté plainte.
Sinon changé, pour le mix des cultures, c'est sur le 102.4 à Évreux, 95.9 dans le sud de l'Eure et sur www.principactif.net.
Call her on the telephone. How
lover over, cause I'm all alone. I need excitement, I need it bad. It's the best I've ever had. I wanna hold you, wanna hold you tight. Get teenage kicks, run through the night.
Teenage kicks, hard to beat. Every time she walks down the street.
Sur RFI. Il est midi, ici à Paris, 13h à Beyrouth. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une, le cessez-le-feu est toujours aussi illusoire au Liban. Hier, les frappes israéliennes dans le sud ont fait au moins 14 morts, tandis que le Hezbollah continue de mener des attaques contre l'armée israélienne à l'aide de drones à fibre optique, de petits engins peu coûteux, simples à manier, qui mettent à mal la défense de l'armée de l'État hébreu. Nous évoquerons la réforme de l'armée ukrainienne annoncée par le président Volodymyr Zelensky. Alors qu'elle peine à recruter après 4 ans de guerre, les salaires des soldats vont être augmentés, surtout ceux engagés en première ligne. Et puis pour la première fois de leur histoire, les Pays-Bas ont activé le mécanisme européen pour les catastrophes naturelles. Amsterdam demande de l'aide de ses partenaires pour faire face à des incendies très inhabituels dans le royaume. Les opérations militaires se poursuivent donc dans le sud du Liban malgré le cessez-le-feu. Pour la seule journée d'hier, au moins 14 personnes ont été tuées dans des frappes de l'armée israélienne. Des correspondants de la presse libanaise ont fait état aussi de pilonnages d'artillerie au phosphore blanc sur certains secteurs. Le Hezbollah poursuit aussi ses attaques à l'aide de drones qui mettent en difficulté la défense de l'État hébreu. Les explications à Beyrouth de Paul Khalifeh.
Le Hezbollah revendiqué vendredi au moins 6 attaques contre l'armée israélienne, dont 3 à l'aide de drones kamikazes à fibre optique. Les drones FPV, First Person View, ou vue à la première personne en français, posent un défi croissant à l'armée israélienne. L'engin est piloté grâce à une caméra installée sur le drone qui transmet l'image en direct vers des lunettes FPV, un écran ou un casque. Le tout est relié à un câble en fibre optique, ce qui rend impossible les opérations de brouillage électronique. Les pertes ont sensiblement augmenté dans les rangs de l'armée israélienne depuis l'introduction sur le champ de bataille de ce drone fabriqué au Liban, selon le porte-parole du Hezbollah. Youssef Azzain, qui a rencontré vendredi un groupe de journalistes, a déclaré que le Hezbollah a acheminé des renforts en armes et en effectifs dans le sud du Liban depuis le début des affrontements avec Israël le 2 mars. Le directeur des relations avec les médias du parti chiite a indiqué que le Hezbollah a reconstitué ses forces après la dernière guerre en 2024 et qu'il est préparé à une longue bataille. Paul Khalifeh, Beyrouth, RFI.
Difficile de suivre le président américain sur le dossier iranien. Donald Trump affirme que ses opérations militaires sont terminées, façon de ne pas avoir à obtenir la validation du Congrès pour poursuivre la guerre. Et dans le même temps, qu'il n'est pas satisfait des dernières propositions de Téhéran pour sortir du conflit. En face, le régime iranien reste inflexible. Un responsable militaire juge la reprise de la guerre probable. Et si les bombardements ont cessé, le conflit perdure dans le détroit d'Ormuz. La répression continue également de sévir en Iran. La justice a encore annoncé la pendaison de 2 hommes aujourd'hui accusés d'espionnage au profit d'Israël. Les arrestations et les exécutions se multiplient en Iran. L'Ukraine lance une réforme de son armée. Les négociations sont au point mort avec Moscou. Les bombardements russes sont quotidiens. Et cette réforme devrait permettre de démobiliser les soldats par phase et d'augmenter les salaires. Cette réforme était très attendue après 4 ans de guerre, Muriel Paradon.
C'est le président Volodymyr Zelensky qui l'annonce sur son compte Telegram. Le premier objectif de cette réforme de l'armée est d'augmenter considérablement les salaires des soldats. Ceux qui se trouvent dans des positions non combattantes seraient payés au minimum 580 euros contre 390 actuellement. Mais ce sont surtout ceux qui sont en première ligne qui seraient mieux rétribués, avec une solde pouvant aller jusqu'à 7 700 euros. Deuxième objectif, renforcer le système de contrat pour établir des conditions de service établies. En clair, une démobilisation progressive de ceux qui ont déjà été engagés par le passé. Aujourd'hui, il est quasiment impossible d'être démobilisé refusée tant que la loi martiale votée au début de la guerre en 2022 n'est pas levée. Les Ukrainiens combattent donc sans perspective de pouvoir arrêter, alors que la guerre a déjà fait des dizaines de milliers de morts au Bakhmout. Sans incitation nouvelle, l'armée peine à recruter. D'où cette réforme qui devrait être précisée dans les semaines qui viennent et entrer en vigueur au mois de juin.
Avec ce conflit à ses portes, l'Allemagne appelle l'Europe à faire plus pour prendre en main la sécurité du continent. Un appel qui intervient après avoir reçu les foudres de Donald Trump. Le Pentagone a annoncé le départ de 5000 militaires américains d'Allemagne d'ici un an, soit 15% des effectifs stationnés dans le pays. Hasard ou pas, il y a quelques jours, le chancelier Friedrich Merz avait estimé que les Américains n'avaient visiblement aucune stratégie en Iran et que Téhéran humiliait la première puissance mondiale. Berlin est aussi particulièrement visé par cette nouvelle menace américaine sur les droits de douane avec ses fleurons automobiles à l'exportation que sont BMW et Mercedes. Le bras de fer commercial entre Donald Trump et les Européens n'était donc pas terminé. Le président américain a ressorti une de ses armes favorites et promet qu'il va relever à 25% les taxes sur les véhicules des 27 importés aux États-Unis la semaine prochaine. Il reproche à Bruxelles de ne pas respecter l'accord commercial conclu l'été dernier, car sa validation prend du temps. Les députés européens ont déjà donné leur feu vert en mars. C'est désormais aux États membres de se prononcer. La solidarité européenne s'active en ce moment aux Pays-Bas, dans un pays où les pompiers sont plus habitués à intervenir sur des inondations. Amsterdam fait face en ce moment à de nombreux feux de forêt, dont plusieurs sur des terrains militaires. Les Pays-Bas ont donc demandé l'aide de ses voisins européens, Pierre Benazet.
Dès mercredi soir, des pompiers belges sont arrivés sur le camp militaire de Weert, dans le Limbourg néerlandais, où 80 hectares ont été touchés par les flammes. Il faut dire que cette commune borde la frontière. Les pompiers belges sont donc venus en quelque sorte en voisins. Depuis, d'autres camps militaires ont été touchés par les flammes. D'une part, au nord-ouest d'Eindhoven, à 40 km du premier incendie. D'autre part, dans la Gueldre, au centre du royaume, où l'autoroute a dû être fermée. Pour la première fois de leur histoire, les Pays-Bas ont donc activé le mécanisme européen pour demander l'assistance de l'étranger. L'Allemagne a dépêché des pompiers dès jeudi, la France des membres du 1er régiment de protection civile ce vendredi. Au total, 4 terrains militaires ont ainsi été envahis par les flammes, dont un pendant des manœuvres d'artillerie. La maréchaussée enquête sur la possibilité d'un lien entre ces manœuvres et l'incendie, mais souligne qu'il y a eu d'autres incendies hors zone militaire dans les provinces de Gueldre et de Hollande septentrionale. Le gouvernement néerlandais avertit que les Pays-Bas vont désormais devoir faire face à des sécheresses plus longues. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
À l'occasion des 400 ans de son ancêtre, le Jardin Royal des Plantes Médicinales, RFI vous fait découvrir les coulisses du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Internationalement reconnue, cette institution de recherche scientifique et de sensibilisation au monde vivant abrite près de 70 millions de spécimens d'animaux, de plantes, de fossiles et autres roches conservées sous différentes formes. C'est la troisième collection naturaliste au monde. Et parmi les métiers insolites au muséum, il y a celui de Guillaume Gérard qui est préparateur de squelettes. Lucille Gimbert l'a rencontré.
À l'entrée du laboratoire, un portique et des poulies pour soulever les plus gros animaux. Récemment, Guillaume Gérard a reçu les restes d'une baleine échouée sur les côtes françaises.
Vous voyez là, dans la cuve, il y a une tête d'hyperodon, c'est un type de baleine à bec. Il doit peser une soixantaine de kilos là.
Comme pour la tortue géante qui macère dans la chambre froide à côté, vu leurs dimensions, le préparateur de squelettes n'avait qu'une option, les plonger dans l'eau et attendre que les tissus pourrissent. Avantage, Guillaume Gérard n'a pas d'odorat. Mais la plupart du temps, après des prélèvements ADN, le technicien décharne les cadavres qui lui arrivent de zoo ou de centre de soins, puis il les fait cuire.
Ensuite, un bain d'enzymes pour digérer toutes les chairs qui va rester, les ligaments, les tendons, le périoste. Et ensuite, on va obtenir un tas d'os qui, éventuellement, on va devoir faire dégraisser. Pour au final, obtenir voilà, un tas d'os propre, utilisable pour les chercheurs.
Sur ces étagères, sèchent des tas d'os de toute taille, corneilles, ratons laveurs, élans et ce merlu pêché en Atlantique Nord.
C'est surtout son crâne et certaines nageoires. Vous voyez, plein de petits éléments comme ça. La plupart des squelettes que je prépare ici sont surtout utilisés pour les archéozoologues qui, eux, ont besoin de collections de références pour savoir telle espèce, les os ressemblent à ça, ils ont telle taille, tel poids, telle apparence et du coup, pouvoir comparer par rapport à ce qu'ils trouvent sur le terrain.
Comme ces archéologues qui, en Amazonie, étudient les poissons que mangeaient les peuples autochtones il y a des milliers d'années.
Et puis elle est bien vivante, elle, sauvetage réussi pour la baleine à bosse qui était échouée depuis plusieurs semaines en Allemagne. Le mammifère semblait pourtant affaibli, des experts estimaient qu'il était condamné, jugeant inutile de s'acharner sur son sauvetage. Après plusieurs tentatives infructueuses, la baleine de 12 mètres a donc pu être relâchée après avoir été remorquée par un navire en mer du Nord au large du Danemark libre. Elle devrait désormais longer la côte norvégienne en direction de l'Arctique. Tout de suite, écho d'ailleurs, écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI avec Bruno Faure.
Qu'est-ce que c'est ?
Une transmission. Et la fréquence est si élevée qu'elle court-circuite le récepteur.
Vous écoutez Principe Actif.
Principe Actif.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
la sauce de dingo.
J'ai déjà dit, t'assistes à l'attaque du contre-empire. Les wacks transpirent pendant que des moines en transcrivent mes textes en sanskrit. Encore une fois, je reviens pour fermer vos petites gueules. Vous parlez trop, on se croirait dans Gossip Girl. Dans ce game, y'a que les vrais comme mon numéro. Le crew c'est LBN, je traîne qu'avec des généraux. Pauvre tarpa, tu veux jouer les dealers d'héros. Alors ton peur à ne parle pas aux hétéros. Quand je m'exprime, c'est du grand art. 9-3 sur l'étendard, j'ai pas fait rap contender, mais je suis légendaire. Ramène ta clique. Je l'enterre, on en reparlera. Tu fais de la bonne petra, mais des sales peura. Laisse-moi lire ton contrat, je vais t'expliquer à quel point et à quel endroit tu t'es fait niquer. T'as choisi la mort et chichi. Maintenant tu chiales seul dans ta piole en écoutant Lionel Richie. C'est affreux, c'est horrible, c'est idiot. C'est surtout très dangereux quand j'arrive sous peu en mode ivrogne. On chie sur tes plates-bandes. Et si t'es pas d'accord, on transforme ta sale bande en tas de sang. C'est affreux, c'est horrible, c'est ignoble. C'est surtout très dangereux quand j'arrive sous peu en mode ivrogne. On chie sur tes plates-bandes. Et si t'es pas d'accord, on transforme ta sale bande en tas de sang. Ok, 2-3 règles de base. Pour être un rappeur, faut commencer par rapper, espèce de naze. Ensuite, faut arrêter de saper comme une espèce de trave. Et enfin, changer vos merdes de blase. J'ai, j'suis dur en affaire, dès que branche le HF, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'allonger par terre. On a grandi dans le ghetto, bouffé du béton. On arrive en retard parce que quelqu'un a écrasé un piéton. Toi, personne te calcule, t'es qu'un sale nul. Tes textes sont chiants, c'est pour ça que tu fais du rap conscient. Je considère moins qu'un cafard, tu fais de la merde. Nous on fait des trucs à part. Tu sais pour qui je passe celle-là. Mes vrais gars de Blancoc à Celsar, de Montreuil à Best Bar. Pour les haters de tout bourg, pour ma banlieue nord. Pour ceux qui me connaissent même pas, mais qui m'aiment pas. C'est affreux, c'est horrible, c'est ignoble. C'est surtout très dangereux quand j'arrive sous peu en mode ivrogne. On chie sur tes plates-bandes. Et si t'es pas d'accord, on transforme ta sale bande en tas de sang. C'est affreux, c'est horrible, c'est ignoble. C'est surtout très dangereux quand j'arrive sous peu en mode ivrogne. On chie sur tes plates-bandes. Et si t'es pas d'accord, on transforme ta sale bande en tas de sang. Yes, S-H-E-R-A-Y-O. Celle-là, c'est pour mon gars Slob. Yes, tu sais que je suis un mec ignoble. Dès que je suis un mode ivrogne, yes. C'est pour le coup frère, c'est pour les mecs du Havre, c'est pour tous les mecs qui savent.
Je
à Verneuil-Davray-Ditton sur le DAB+.
Sur le DAB+.